Voltaire, dictionnaire philosophique, article Dieu au singulier, Dieu au pluriel. La connaissance d'un Dieu n'est point empreinte en nous par les mains de la nature, car tous les hommes auraient la même idée et nulle idée ne naît avec nous. Elle ne nous vient point comme la perception de la lumière, de la terre, etc., que nous recevons dès que nos yeux et notre entendement s'ouvrent. Est-ce une idée philosophique? Non. Les hommes ont admis des dieux avant qu'il y eut des philosophes. Mais d'où est donc dérivée cette idée? Vient du sentiment et de cette logique naturelle qui se développe avec l'âge dans les hommes les plus grossiers. On a vu des effets étonnants de la nature, des moissons et des stérilités, des jours sereins et des tempêtes, des bienfaits et des fléaux, et on a senti un maître. Il a fallu des chefs pour gouverner des sociétés, et on a eu besoin d'admettre des souverains, de ces souverains nouveaux que la faiblesse humaine s'était donnée, des êtres dont le pouvoir suprême fit trembler des hommes qui pouvaient accabler leurs égaux. Les premiers souverains ont à leur tour employé ces notions pour cimenter leur puissance. Voilà les premiers pas, voilà pourquoi chaque petite société avait son dieu. Ces notions étaient grossières parce que tout l'était. Il est très naturel de raisonner par analogie. Une société sous un chef ne niait point que la peuplade voisine eût aussi son juge, son capitaine. Par conséquent, elle ne pouvait nier qu'elle eût aussi son dieu. Mais comme chaque peuplade avait intérêt que son capitaine fût le meilleur, elle avait intérêt aussi à croire, et par conséquent, elle croyait que son dieu était le plus puissant. De là, ces anciennes fables, si longtemps généralement répandues, que les dieux d'une nation combattaient contre les dieux d'une autre. De là, tant de passages dans les livres hébreux qui décèlent à tout moment l'opinion où étaient les juifs que les dieux de leurs ennemis existaient, mais que le dieu des juifs leur était supérieur. Cependant, il y eut des prêtres, des mages, des philosophes, dans les grands états où la société perfectionnée pouvait comporter des hommes oisifs occupés de spéculation. Quelques-uns d'entre eux perfectionnèrent leur raison jusqu'à reconnaître en secret un dieu unique et universel. Ainsi, quoique chez les anciens égyptiens on adora Osiris, Osiris, ou plutôt Osiret, qui signifie « cette terre est à moi », quoiqu'ils adorassent encore d'autres êtres supérieurs, cependant, ils admettaient un dieu suprême, un principe unique, qu'ils appelaient Klef, et dont le symbole était une sphère posée sur le frontispice du temple. Sur ce modèle, les Grecs eurent leur Zeus, leur Jupiter, maître des autres dieux, qui n'était que ce que sont les anges chez les Babyloniens et chez les Hébreux, et les saints chez les chrétiens de la communion romaine. C'est une question plus épineuse qu'on le pense et très peu approfondie, si plusieurs dieux égaux en puissance pourraient subsister à la fois. Nous n'avons aucune notion adéquate de la divinité. Nous nous traînons seulement de soupçon en soupçon, de vraisemblance en probabilité. Nous arrivons à un très petit nombre de certitudes. Il y a quelque chose, donc il y a quelque chose d'éternel, car rien n'est produit de rien. Voilà une vérité certaine sur laquelle votre esprit se repose. Tout ouvrage qui nous montre des moyens et une fin annonce un ouvrier. Donc cet univers, composé de ressorts, de moyens dont chacun a sa fin, découvre un ouvrier très puissant, très intelligent. Voilà une probabilité qui approche de la plus grande certitude. Mais cet artisan suprême est-il infini? Est-il partout? Est-il en un lieu? Mais comment répondre à cette question avec notre intelligence bornée et nos faibles connaissances? Ma seule raison me prouve un être qui a arrangé la matière de ce monde. Mais ma raison est impuissante à me prouver qu'il ait fait cette matière. qu'il l'ait tiré du néant. Tous les sages de l'Antiquité, sans aucune exception, ont cru la matière éternelle et subsistante par elle-même. Tout ce que je puis faire sans le secours d'une lumière supérieure, c'est donc de croire que le Dieu de ce monde est aussi éternel et existant par lui-même. Dieu et la matière existent par la nature des choses. D'autres dieux ainsi que d'autres mondes ne subsisteraient-ils pas? Des nations entières, des écoles très éclairées, ont bien admis deux dieux dans ce monde. L'un la source du bien, l'autre la source du mal. Ils ont admis une guerre interminable entre deux puissances égales. Certes, la nature peut plus aisément souffrir dans l'immensité de l'espace plusieurs êtres indépendants, maîtres absolus, chacun dans leur entendue, que deux dieux bornés et impuissants dans ce monde, dont l'un ne peut faire le bien et l'autre ne peut faire le mal. Si Dieu et la matière existent de toute éternité, comme l'Antiquité l'a cru, voilà deux êtres nécessaires. Or, s'il y a deux êtres nécessaires, il peut y en avoir 30. Ces seuls doutes qui sont le germe d'une infinité de réflexions servent au moins à nous convaincre de la faiblesse de notre entendement. Il faut que nous confessions notre ignorance sur la nature de la divinité avec Cicéron. Nous n'en saurons jamais plus que lui. Les écoles ont beau nous dire que Dieu est infini négativement et non privativement, formaliter et non materialiter, qu'il est le premier et le moyen et le dernier acte, qu'il est partout sans être dans aucun lieu, 100 pages de commentaires sur de pareilles définitions ne peuvent nous donner la moindre lumière. Nous n'avons ni degré ni point d'appui pour monter à de telles connaissances. Nous sentons que nous sommes sous la main d'un être invisible, c'est tout, et nous ne pouvons faire un pas au-delà. Il y a une témérité insensée à vouloir deviner ce que c'est que cet être, s'il est étendu ou non, s'il existe dans un lieu ou non, comment il existe et comment il opère. Je crains toujours de me tromper, mais tous les monuments me font voir avec évidence que les anciens peuples polissaient et reconnaissaient un Dieu suprême. Il n'y a pas un seul livre, une médaille, un bas-relief, une inscription où il ne soit parlé de Junon, de Minerve, de Neptune, de Mars et des autres dieux comme d'un être formateur, souverain de toute la nature. Et au contraire, les plus anciens livres profanes que nous ayons, Hésiode et Homère, représentent leur Zeus comme seul lançant la foudre, comme seul maître des dieux et des hommes. Il punit même les autres dieux. Il attache Junon à une chaîne, il chasse Apollon du ciel. L'ancienne religion des Brahmanes, la première qui admit des créatures célestes, la première qui parla de leur rébellion, s'explique d'une manière sublime sur l'unité et la puissance de Dieu, comme nous l'avons vu à l'article Ange. Les Chinois, tout entiers qu'ils sont, ne viennent qu'après les Indiens. Ils ont reconnu un seul Dieu de temps immémorial. Point de Dieu subalterne, point de génie ou démon médiateur entre Dieu et les hommes, point d'oracle, point de dogmes abstraits, point de dispute théologique chez les lettrés. L'empereur fut toujours le premier pontife. La religion fut toujours auguste et simple. C'est ainsi que ce vaste empire, quoique subjugué deux fois, s'est toujours conservé dans son intégrité, qu'il a soumis ses vainqueurs à ses lois, et que, malgré les crimes et les malheurs attachés à la race humaine, il est encore l'état le plus florissant de la terre. Les mages de Chaldée, les Sabéens, ne reconnaissaient qu'un seul Dieu suprême et l'adoraient dans les étoiles qui sont son ouvrage. Les Persans l'adoraient dans le soleil. La sphère posée sur le frontispice du temple de Memphis était l'emblème d'un Dieu unique et parfait, nommé Knef par les Égyptiens. Le titre de Deus Optimus Maximus n'a jamais été donné par les Romains qu'au seul Jupiter. Hominum satur et quae deorum. On ne peut trop répéter cette grande vérité que nous indiquons ailleurs. Cette adoration d'un Dieu suprême est confirmée depuis Romulus jusqu'à la destruction entière de l'Empire et à celle de sa religion. Malgré toutes les folies du peuple qui vénérait des dieux secondaires et ridicules, et malgré les épicuriens qui au fond n'en reconnaissaient aucun, il est avéré que les magistrats et les sages adorèrent dans tous les temps un dieu souverain. Dans le grand nombre de témoignages qui nous restent de cette vérité, je choisirai d'abord celui de Maxime de Tyr, qui florissait sous les Antonins, ces modèles de la vraie piété puisqu'il l'était de l'humanité. Voici ses paroles dans son discours intitulé « De Dieu selon Platon ». Le lecteur qui veut s'instruire est prié de les bien peser. Les hommes ont eu la faiblesse de donner à Dieu une figure humaine, parce qu'ils n'avaient rien vu au-dessus de l'homme. Mais il est ridicule de s'imaginer, avec Homère, que Jupiter ou la suprême divinité a les sourcils noirs et les cheveux d'or, et qu'il ne peut les secouer sans ébranler le ciel. Quand on interroge les hommes sur la nature de la divinité, toutes leurs réponses sont différentes. Cependant, au milieu de cette prodigieuse variété d'opinions, vous trouverez un même sentiment par toute la terre, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous, etc. Et que deviendront, après cet aveu formel, et après les discours immortels des Cicérons, des Antonins, des Épictètes, que deviendront, dis-je, les déclarations que tant de pédants ignorants répètent encore aujourd'hui? À quoi serviront ces éternels reproches d'un polythéisme grossier et d'une idolâtrie puérile, qu'à nous convaincre que ceux qui les font n'ont pas la plus légère connaissance de la saine antiquité? Ils ont pris les rêveries d'Homère pour la doctrine des sages. Faut-il un témoignage encore plus fort et plus expressif? Vous le trouverez dans la lettre de Maxime de Madour à Saint-Augustin. Tous deux étaient philosophes et orateurs, du moins ils s'en piquaient. Ils s'écrivaient librement. Ils étaient amis autant que peuvent l'être un homme de l'ancienne religion et un de la nouvelle. Lisez la lettre de Madame Maxime de Madour et la réponse de l'évêque d'Hippone. Lettre de Maxime de Madour. Or, qu'il y ait un Dieu souverain qui soit sans commencement et qui, sans avoir rien engendré de semblable à lui, soit néanmoins le Père commun de toutes choses, qui est-ce qui est assez stupide et assez grossier pour en douter? C'est celui dont nous adorons sous divers noms la puissance répandue dans toutes les parties du monde. Ainsi, en honorant séparément par diverses sortes de cultes ce qui est comme ses divers membres, nous l'adorons tout entier. Qu'il vous conserve, ces dieux subalternes, sous le nom desquels et par lesquels, tous tant que nous sommes de mortels sur la terre, nous adorons le Père commun des dieux et des hommes, par différentes sortes de cultes à la vérité, mais qui, dans leur variété, s'accordent et ne tendent qu'à la même fin. Qui écrivait cette lettre? Un numide, un homme du pays d'Alger. Réponse d'Augustin. Il y a dans votre place publique deux statues de Mars, nues dans l'une et armées dans l'autre, et tout auprès une figure d'un homme qui, avec trois doigts qu'il avance vers celle de Mars, tient en bride cette divinité malencontreuse à toute la ville. Sur ce que vous me dites que de pareils dieux sont comme les membres du seul véritable Dieu, je vous avertis, avec toute la liberté que vous me donnez, de prendre bien garde de ne pas tomber dans ces railleries sacrilèges, car ce seul Dieu dont vous parlez est sans doute celui qui est reconnu de tout le monde, et sur lequel les ignorants conviennent avec les savants, comme quelques anciens ont dit. Or, direz-vous que celui dont la force, pour ne pas dire la cruauté, est réprimée par la figure d'un homme mort, soit un membre de celui-là? Il me serait aisé de vous pousser sur ce sujet. car vous voyez bien ce qu'on pourrait dire contre cela. Mais je me retiens de peur que vous ne disiez que ce sont les armes de la rhétorique que j'emploie contre vous, plutôt que celles de la vérité. Nous ne savons pas ce que signifiaient ces deux statues dont il ne reste aucun vestige. Mais toutes les statues dont Rome était remplie, le Panthéon et tous les temples consacrés à tous les dieux subalternes, et même aux 12 grands dieux, n'empêchèrent jamais que Deus Optimus Maximus, Dieu très bon et très grand, ne fut reconnu dans tout l'Empire. Le malheur des Romains était donc d'avoir ignoré la loi mosaïque, et ensuite d'ignorer la loi des disciples de notre Sauveur Jésus-Christ, de n'avoir pas eu la foi, d'avoir mêlé au culte d'un Dieu suprême le culte de Mars, de Vénus, de Minerve, d'Apollon, qui n'existait pas, et d'avoir conservé cette religion jusqu'au temps des Théodoses. Heureusement, les Gaules, les Huns, les Vandales, les Hérules, les Lombards, les Francs, qui détruisirent cet empire, se soumirent à la vérité et jouirent d'un bonheur qui fut refusé aux Scipions, aux Catons, aux Metellus, aux Émiles, aux Cicérons, aux Varons, aux Virgiles et aux Horaces. Tous ces grands hommes ont ignoré Jésus-Christ, qu'ils ne pouvaient connaître. Mais ils n'ont point adoré le diable, comme le répètent tous les jours tant de pédants. Comment auraient-ils adoré le diable, puisqu'ils n'en avaient jamais entendu parler ?
D'une calomnie de Warburton contre Cicéron au sujet d'un dieu suprême. Warburton a calomnié Cicéron et l'ancienne Rome, ainsi que ses contemporains. Il suppose hardiment que Cicéron a prononcé ces paroles dans son oraison pour Flaccus. Il est indigne de la majesté de l'Empire d'adorer un seul dieu. Majestatem imperi non decuit et unus tantum deus colatur. Qui le croirait ? Il n'y a pas un mot de cela dans l'oraison pour Flaccus, ni dans aucun ouvrage de Cicéron. Il s'agit de quelques vexations dont on accusait Flaccus, qui avait exercé la préture dans l'Asie mineure. Il était secrètement poursuivi par les Juifs, dont Rome était alors inondée, car ils avaient obtenu à force d'argent des privilèges à Rome, dans le temps même que Pompée, après Crassus, ayant pris Jérusalem, avait fait pendre le roi Ptolémée Alexandre, fils d'Aristobule. Flaccus avait défendu qu'on fît passer des espèces d'or et d'argent à Jérusalem, parce que ces monnaies revenaient altérées et que le commerce en souffrait. Il avait fait saisir l'or qu'on y portait en fraude. Cet or, dit Cicéron, est encore dans le trésor. Flaccus s'est conduit avec autant de désintéressement que Pompée. Ensuite, Cicéron, avec son ironie ordinaire, prononce ces paroles. Chaque pays a sa religion, nous avons la nôtre. Lorsque Jérusalem était encore libre et que les Juifs étaient en paix, ces Juifs n'avaient pas moins en horreur la splendeur de cet empire, la dignité du nom romain, les institutions de nos ancêtres. Aujourd'hui, cette nation a fait voir plus que jamais, par la force de ses armes, ce qu'elle doit penser de l'Empire romain. Elle nous a montré par sa valeur combien elle est chère aux dieux immortels. Elle nous l'a prouvé en étant vaincue, dispersée, tributaire. Sua quique civitate religio est, nostra nobis. Stantibus hierosimis, pacatisque judaeis, tamen historum, etc., etc. Cicéron, Oratio pro Flacco, chapitre 28. Il est donc très faux que jamais ni Cicéron ni aucun Romain ait dit qu'il ne convenait pas à la majesté de l'Empire de reconnaître un dieu suprême. Leur Jupiter, ce Zeus des Grecs, ce Jéhovah des Phéniciens, fut toujours regardé comme le maître des dieux secondaires. On ne peut trop qu'inculquer cette grande vérité. Les Romains ont-ils pris tous leurs dieux des Grecs ? Les Romains n'auraient-ils pas eu plusieurs dieux qui ne tenaient pas des Grecs ? Par exemple, ils ne pouvaient avoir été plagiaires en adorant Coelum, quand les Grecs adoraient Uranos, en s'adressant à Suturne et à Tellus,
quand les Grecs s'adressaient à Gaï et à Cronos. Ils appelaient Cérès celle que les Grecs nommaient Déo et Déméter. Leur Neptune était Poséidon, leur Vénus était Aphrodite, leur Junon s'appelait en grec Héra, leur Proserpine Corée, enfin leur favori Mars Arès, et leur favorite Bellone et Hério. Il n'y a pas là un nom qui se ressemble. Les beaux esprits grecs et romains s'étaient-ils rencontrés ou les uns avaient-ils pris des autres la chose dont ils déguisaient le nom? Il est assez naturel que les Romains, sans consulter les Grecs, se soient fait des dieux du ciel, du temps, d'un être qui préside à la guerre, à la génération, aux moissons, sans aller demander des dieux en Grèce, comme ensuite ils allèrent leur demander des lois. Quand vous trouvez un nom qui ne ressemble à rien, il paraît juste de le croire originaire du pays. Mais Jupiter, le maître de tous les dieux, n'est-il pas un mot appartenant à toutes les nations, depuis l'Euphrate jusqu'au Tibre? C'était Jove, Jovis, chez les premiers Romains, Zeus chez les Grecs, Jéhovah chez les Phéniciens, les Syriens, les Égyptiens. Cette ressemblance ne paraît-elle pas servir à confirmer que tous ces peuples avaient la connaissance de l'être suprême? Connaissance confuse à la vérité, mais quel homme peut l'avoir distincte? De la nécessité de croire un être suprême. Le grand objet, le grand intérêt, ce me semble, n'est pas d'argumenter en métaphysique, mais de peser s'il faut, pour le bien commun de nous autres animaux misérables et pensants, admettre un dieu rémunérateur et vengeur, qui nous serve à la fois de frein et de consolation, ou rejeter cette idée en nous abandonnant à nos calamités sans espérance et à nos crimes sans remords. Hobbes dit que si dans une république où l'on ne reconnaît point de dieu, quelques citoyens en proposaient un, il le ferait pendre. Il entendait apparemment par cette étrange exagération un citoyen qui voudrait dominer au nom de Dieu, un charlatan qui voudrait se faire tyran. Nous entendons des citoyens qui, sentant la faiblesse humaine, sa perversité et sa misère, cherchent un point fixe pour assurer leur morale et un appui qui les soutienne dans les langueurs et dans les horreurs de cette vie. Depuis Job jusqu'à nous, un très grand nombre d'hommes a maudit son existence. Nous avons donc un besoin perpétuel de consolation et d'espoir. Votre philosophie nous en prive. La fable de Pandore valait mieux, elle nous laissait l'espérance, et vous nous la ravissez. La philosophie, selon vous, ne fournit aucune preuve d'un bonheur à venir. Non, mais vous n'avez aucune démonstration du contraire. Il se peut qu'il y ait en nous une monade indestructible qui sente et qui pense, sans que nous sachions le moins du monde comment cette monade est faite. La raison ne s'oppose pas absolument à cette idée, quoique la raison seule ne l'approuve pas. Cette opinion n'a-t-elle pas un prodigieux avantage sur la vôtre? La mienne est utile au genre humain, la vôtre est funeste. Elle peut, quoi que vous en disiez, décourager les Néron, les Alexandre VI et les Cartouches. La mienne peut les réprimer. Marc-Antonin, Épictète, croyaient que leur monade, de quelque espèce qu'elle fût, se rejoindrait à la monade du grand être. Ils furent les plus vertueux des hommes. Mais le doute où nous sommes tous deux, je ne vous le dis pas avec Pascal. Prenez le plus sûr. Il n'y a rien de sûr dans l'incertitude. Il ne s'agit pas ici de parier, mais d'examiner. Il faut juger, et notre volonté ne détermine pas notre jugement. Je ne vous propose pas de croire des choses extravagantes pour vous tirer d'embarras. Je ne vous dis pas « Allez à la Mecque, baiser la pierre noire pour vous instruire. Tenez une queue de vache à la main. Affublez-vous d'un scapulaire. Soyez imbéciles et fanatiques pour acquérir la faveur de l'être des êtres. » Je vous dis « Continuez à cultiver la vertu, à être bienfaisant, à regarder toute superstition avec horreur ou avec pitié, mais adorez avec moi le dessein qui se manifeste dans toute la nature, Et par conséquent, l'auteur de ce dessein, la cause primordiale et finale de tout. Espérez avec moi que notre monade qui résonne sur le grand être éternel pourra être heureuse par ce grand être même. Il n'y a point là de contradiction. Vous ne m'en démontrerez pas l'impossibilité, de même que je ne puis vous démontrer mathématiquement que la chose est ainsi. Nous ne raisonnons guère en métaphysique que sur des probabilités. Nous nageons tous dans une mer dont nous n'avons jamais vu le rivage. Malheur à ceux qui se battent en nageant. Abordera qui pourra, mais celui qui me crie « Vous nagez en vain, il n'y a point de port !» me décourage et m'ôte toutes mes forces. Et de quoi s'agit-il dans notre dispute? De consoler notre malheureuse existence. Qui la console, vous ou moi? Vous avouez vous-même, dans quelques endroits de votre ouvrage, que la croyance d'un dieu a retenu quelques hommes sur le bord du crime. Cet aveu me suffit. Quand cette opinion m'aurait prévenu que 10 assassinats, 10 calomnies, 10 jugements iniques sur la terre, je tiens que la terre entière doit l'embrasser. La religion, dites-vous, a produit des milliards de forfaits. Dites la superstition qui règne sur notre Christ-globe. Elle est la plus cruelle ennemie de l'adoration pure qu'on doit à l'être suprême. Détestons ce monstre qui a toujours déchiré le sein de sa mère. Ceux qui le combattent sont les bienfaiteurs du genre humain. C'est un serpent qui entoure la religion de ses replis. Il faut lui écraser la tête sans blesser celle qu'il infecte et qu'il dévore. Vous craignez qu'en adorant Dieu, on en redevienne bientôt superstitieux et fanatique. Mais n'est-il pas à craindre qu'en le niant, on ne s'abandonne aux passions les plus atroces et aux crimes les plus affreux? Entre ces deux excès, n'y a-t-il pas un milieu très raisonnable? Où est l'asile entre ces deux écueils? Le voici, Dieu et des lois sages. Vous affirmez qu'il n'y a qu'un pas de l'adoration à la superstition. Il y a l'infini pour les esprits bienfaits. Et ils sont aujourd'hui en grand nombre. Ils sont à la tête des nations. Ils influent sur les mœurs publiques et d'année en année, le fanatisme qui couvrait la terre se voit enlever ses détestables usurpations. Je répondrai encore un mot à vos paroles. Si l'on présume des rapports entre l'homme et cet être incroyable, il faudra lui élever des autels, lui faire des présents, etc. Et si l'on ne conçoit rien à cet être, il faudra s'en rapporter à des prêtres qui, etc., etc., etc. Le grand mal de s'assembler au temps des moissons pour remercier Dieu du pain qu'il nous a donné. Qui vous dit de faire des présents à Dieu? L'idée en est ridicule. Mais où est le mal de charger un citoyen, qu'on appellera vieillard ou prêtre, de rendre des actions de grâce à la divinité au nom des autres citoyens, pourvu que ce prêtre ne soit pas un Grégoire VII qui marche sur la tête des rois ou un Alexandre VI souillant par un inceste le sein de sa fille, qu'il a engendré par un stupre et assassinat empoisonnant à l'aide de son bâtard presque tous les princes ses voisins, pourvu que dans une paroisse, ce prêtre ne soit pas un fripon volant dans la poche des pénitents qu'il confesse, et employant cet argent à séduire les petites filles qu'il catéchise, pourvu que ce prêtre ne soit pas un letellier qui met tout un royaume en combustion par des fourberies dignes du pilori, un Warburton qui viole les lois de la société en manifestant les papiers secrets d'un membre du Parlement pour le perdre et qui calomnie quiconque n'est pas de son avis. Ces derniers cas sont rares. L'état du sacerdoce est un frein qui force à la bienséance. Un sot prêtre excite le mépris. Un mauvais prêtre inspire l'horreur. Un bon prêtre, doux, pieux, sans superstition, charitable, tolérant, est un homme qu'on doit chérir et respecter. Vous craignez l'abus, et moi aussi. Unissons-nous pour le prévenir. Mais ne condamnons pas l'usage quand il est utile à la société, quand il n'est pas perverti par le fanatisme ou par la méchanceté frauduleuse. J'ai une chose très importante à vous dire. Je suis persuadé que vous êtes dans une grande erreur, mais je suis également convaincu que vous vous trompez en honnête homme. Vous voulez qu'on soit vertueux, même sans Dieu. Et quoi que vous ayez dit malheureusement que, dès que le vice rend l'homme heureux, il doit aimer le vice, proposition affreuse que vos amis auraient dû vous faire effacer. Mais partout ailleurs, vous aspirez la probité. Cette dispute philosophique ne sera qu'entre vous et quelques philosophes répandus dans l'Europe. Le reste de la terre n'en entendra point parler. Le peuple ne nous lit pas. Si quelque théologien voulait vous persécuter, il serait un méchant, il serait un imprudent, qui ne servirait qu'à vous affermir et à faire de nouveaux athées. Vous avez tort, mais les Grecs n'ont point persécuté Épicure, les Romains n'ont point persécuté Lucrèce. Vous avez tort, mais il faut respecter votre génie et votre vertu, en vous réfutant de toutes ses forces. Le plus bel hommage, à mon gré, qu'on puisse rendre à Dieu, c'est de prendre sa défense sans colère, comme le plus indigne portrait qu'on puisse faire de lui est de le peindre vindicatif et furieux. Il est la vérité même, la vérité est sans passion. C'est être disciple de Dieu que de l'annoncer d'un cœur doux et d'un esprit inaltérable. Je pense avec vous que le fanatisme est un monstre, mille fois plus dangereux que l'athéisme philosophique. Spinoza n'a pas commis une seule mauvaise action. Chastel et Ravaillac, tous deux dévots, assassinèrent Henri IV. L'athée de cabinet est presque toujours un philosophe tranquille, et le fanatique est toujours turbulent. Mais l'athée de cour, le prince athée, pourrait être le fléau du genre humain. Borgia et ses semblables ont fait presque autant de mal que les fanatiques de Münster et des Cévennes. Je dis les fanatiques des deux partis. Le malheur des athées de cabinet est de faire des athées de cour. C'est Chiron qui élève Achille. Il le nourrit de moelle de lion. Et un jour, Achille traînera le corps d'Hector autour des murailles de Troie et immolera 12 captifs innocents à sa vengeance. Dieu nous garde d'un abominable prêtre qui hache un roi en morceaux avec son couperet sacré, ou de celui qui, le casque en tête et la cuirasse sur le dos, à l'âge de 70 ans, au signé de ses 3 doigts ensanglantés, la ridicule excommunication d'un roi de France, ou de. Mais que Dieu nous préserve aussi d'un despote colère et barbare, qui ne croyant point un Dieu, serait son Dieu à lui-même, qui se rendrait indigne de sa place sacrée en foulant aux pieds les devoirs que cette place impose, qui sacrifierait sans remords ses amis, ses parents, ses serviteurs, son peuple à ses passions. Et ces deux tigres, l'un tondu, l'autre couronné, sont également à craindre. Et par quel frein pourrons-nous les retenir, etc., etc. Si l'idée d'un Dieu auquel nos âmes peuvent se joindre a fait des Titus, des Trajan, des Antonins, des Marc Aurèle et ces grands empereurs chinois dont la mémoire est si précieuse dans le second des plus anciens et des plus vastes empires du monde, ces exemples suffisent pour ma cause, et ma cause est celle de tous les hommes. Je ne crois pas que dans toute l'Europe il y ait un seul homme d'État, un seul homme un peu versé dans les affaires du monde, qui n'ait le plus profond mépris pour toutes les légendes dont nous avons été inondés, puisque nous le sommes aujourd'hui de brochures. Si la religion n'enfante plus de guerre civile, c'est à la philosophie seule qu'on en est redevable. Les disputes théologiques commencent à être regardées du même œil que les querelles de Gilles et de Pierrot à la foire. Une usurpation également odieuse et ridicule, fondée d'un côté sur la fraude et de l'autre sur la bêtise, est minée chaque instant par la raison qui établit son règne. La bulle in coena domini, le chef-d'œuvre de l'insolence et de la folie, n'ose plus paraître dans Rome même. Si un régiment de moines fait la moindre évolution contre les lois de l'État, il est cassé sur le champ. Mais quoi? Parce qu'on a chassé les jésuites, faut-il chasser Dieu? Au contraire, il faut l'en aimer davantage.